Radioscopie.
Marcel Cipion.
Jacques Chancel. Nous voici aujourd'hui au creux de la montagne, au cœur de la nature, c'est-à-dire dans un décor vrai. Marcel Cipion, vous avez l'élégance et l'humilité aussi de vous reconnaître des maîtres. Vous savez remercier les bergers, les braconniers, les paysans, autant de personnages qui sont vrais. Ils sont tellement vrais qu'ils vous ont enseigné, dites-vous, le goût de l'effort, de la vie modeste et des grands espaces. En fait, je le crois, ils vous ont surtout accordé de vivre. Alors vous êtes berger des Basses-Alpes, pardon, de la Haute-Provence. Il faut faire très attention maintenant, on ne peut plus dire par exemple les Basses-Pyrénées, on dit les Pyrénées-Atlantiques, alors il ne faut pas dire les Basses-Alpes, il faut dire la Haute-Provence, c'est bien cela.
Ah, oui, c'est ça, c'est ça.
Et vous êtes berger, et vous précisez parfois, parce que les bergers, on le sait, sont les accompagnateurs des moutons. Mais vous précisez, vous, berger d'abeilles. Alors là, j'aimerais bien quand même que vous mettiez un peu de lumière sur ces abeilles.
Eh bien, je suis berger d'abeilles parce que je suis un apiculteur. Et j'ai vécu toujours, pratiquement depuis 25 ans, des abeilles. Alors, pourquoi je me dis berger d'abeilles? Tout simplement parce que nous faisons un peu comme les bergers de moutons. Et nous allons, dans le printemps, dans la montagne. L'hiver, nous portons nos abeilles au bord de mer. Et ensuite, on les transhume chez nous sur les lavandes. Nous faisons, ça s'appelle la transhumance à l'apiculture pastorale. Et voilà pourquoi je me considère comme un berger d'abeilles.
Ce sont quand même deux métiers différents.
Les ce sont deux et les métiers
abeilles,
très
ce ne sont pas les mêmes bêtes.
Ce ne sont pas les mêmes bêtes, oui, parce que les abeilles, on dit gentiment que l'abeille, elle a deux bouts, dont un pic. Évidemment, l'astuce de l'apiculteur, c'est qu'il sait prendre les abeilles par le bon bout. Alors, il faut les prendre par le bon bout. Alors, nous chargeons nos abeilles sur des camions et nous les portons quand la miellée de Bruyères, de Romarin, du Var est finie, la côte provençale. Nous les portons jusqu'à Gap-Briançon, dans les Alpes, pour les faire développer, leur faire butiner toutes les fleurs des Alpes. Et ensuite, quand arrive en général vers le 14-15 juillet, actuellement un petit peu plus tôt, parce que tous les Parisiens qui descendent nous font peur.
Ils vous font vraiment peur.
Hein. Ah, ils nous font vraiment peur, et d'ailleurs, maintenant, j'ai davantage raison encore d'avoir plus peur. Quoique ce ne soit pas un Parisien qui m'a éclopé sur la route.
Mais oui, enfin, il faut préciser que vous avez eu un grave accident.
J'ai eu un très grave accident. Et alors, évidemment, nous descendons un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour avoir transporté nos abeilles de la montagne sur nos champs de lavande de la Haute-Provence, pour que tout soit fini aux environs du 14 juillet, c'est-à-dire à l'environ où tous les Parisiens défilent sur la Provence.
Alors, en ce moment, Marcel Cipion, où habitez-vous?
J'habite à Moustier-Sainte-Marie.
À quelle altitude?
Moustier-Sainte-Marie est à 600, mais actuellement, j'habite un petit peu plus haut. J'habite à la ferme de Vénascle. D'ailleurs, le livre que j'ai fait, Le Clos du Roi, se passe en grande partie dans cette ferme. Et j'habite là où j'ai acheté un petit troupeau de moutons pour passer le temps et surtout pour terminer ma rééducation.
Alors, c'est vrai, vous avez eu un accident. Heureusement, vous étiez sur un camion. Hein.
Oui, heureusement.
Une voiture est venue vous caresser.
Mais 140 caresse, à l'heure, c'est une caresse dont on se passerait volontiers.
Oui, brutale, avec quelques brisures, quelques déchirures.
9 brisures, oui.
Bon, j'espère qu'il y a 3 ans que cela est arrivé. J'espère que dans un an, tout sera fini.
J'espère aussi.
Mais d'une certaine manière, vous avez de la chance. Vous avez pu raconter votre expérience, raconter votre vie, et avec les mots qui sont les vôtres, et qui sont d'une richesse tout à fait exceptionnelle, vous avez su quand Merci. Même composer des pages, et enfin avoir entre les mains cet objet, qui est un bel objet, puisqu'il s'agit d'un livre. S'il n'y avait pas eu l'accident, vous n'auriez jamais écrit, si ?
Je ne sais pas, peut-être j'aurais écrit, mais je me réservais ça pour ma retraite. Je me disais, pendant la retraite, tu occuperas tes loisirs à écrire tes souvenirs. Il s'est trouvé que je me suis...
Vous avez quel âge? 55?
J'ai 55.
Oui.
Il s'est trouvé que cet accident m'a projeté immobile pendant plus d'un an. Et pour ne pas devenir fou, eh bien, des amis m'ont dit, il faudrait t'occuper, toi qui es un homme très actif, il faudrait t'occuper, alors pourquoi tu n'écrirais pas les récits que nous as racontés si souvent? Ce serait peut-être pas si mal que ça. Alors ils m'ont apporté du papier, un crayon, et j'ai fait un récit. Comme ça. On m'a dit, ben, c'est pas mal du tout. Alors j'en ai fait un deuxième. On m'a dit, mais il est mieux que le premier. Puis j'en ai fait un troisième qui, mon ami Nicole Seravegna et Christiane Vivier, deux professeurs de français à Marseille, m'ont dit celui-là, il est formidable. Alors, petit à petit, quand j'avais le temps, eh bien, tous les 2-3 jours, je m'attablais quand j'avais pas trop mal au pied, quand j'avais pas trop mal à l'hanche, quand j'avais pas trop mal par-ci, par-là. Eh bien, je replongeais dans ce passé, dans mon enfance. Et dans une certaine mesure, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé parce que j'en suis arrivé à oublier un peu mes douleurs, ma misère. ce n'est pas gai d'être plongé du jour au lendemain dans la vieillesse. C'est ce que j'ai connu. Et alors, j'ai écrit ces pages. Et évidemment, certaines pages vont peut-être un peu surprendre le lecteur parce que je plonge dans une vie champêtre. Et puis, brusquement, je l'emmène dans une vie un peu de sortilège, de croyance, de guérisseur, de guérison. Comment la grand-mère guérissait les maux de dents, comment le père Gratien guérissait les érésipèles. Et puis ensuite, je saute dans des histoires de bergers qu'à l'âge de 16 ans, j'écoutais par les vieux bergers de 50, 60 ans qui avaient fait la guerre de 14.
Tous vos fantasmes.
Voilà.
Et la vérité.
Et alors, j'ai écrit tout ça. J'ai rien écrit d'extraordinaire, mais enfin, j'ai écrit la vie de nos régions il y a 30 ans. Ça se passait en 35-36.
Vous voyez qu'avec un certificat d'études, on peut devenir un homme de lettres.
Je ne sais pas. Les lecteurs le diront.
Marcel Scipion, alors, vous le dites d'une manière très très précise, vos maîtres, les paysans, les braconniers, les bergers, vous ont enseigné le goût de l'effort. Si vous le dites, c'est que ce goût de l'effort a dû être perdu quelque part, de la vie modeste. C'est que sans doute les gens veulent être installés, veulent être confortables. Alors, le goût de l'effort, vous pensez qu'on l'a perdu?
Je pense qu'on l'a un peu perdu, le goût de l'effort, oui. Parce que... Par exemple, actuellement, j'ai deux enfants, dont un s'installe à la ferme de Venascle. Eh bien, pour aller chercher le ravitaillement, il monte dans sa voiture. Il ne fait pas les 5 km à pied que j'ai fait moi-même.
Mais vous n'allez pas lui reprocher.
Je ne lui reproche pas. Non, je ne lui reproche pas. Mais enfin, si je lui demandais, peut-être il se cabrerait. Alors que nous trouvions ça tout à fait normal. J'enjambais mon mulet. Et je faisais une heure de chevauchée sur mon mulet, en abordant des précipices qui sont assez impressionnants d'ailleurs. Et au retour, je montais les provisions pour toute la semaine. Et dans l'autre bias du berger, je montais une quinzaine ou 20 livres pour l'institutrice et quelques-uns pour moi. Elle me passait d'ailleurs, Madame Hubert. Et avec ça, nous avions la semaine assurée à en vivre. Avec là, nous montions le pain, le sucre, le café. C'est tout ce qu'on achetait, un peu de chocolat, un petit peu de chocolat. Puis des fois, un petit quelque chose, une petite viande grillée. Si on était malade, c'était ça le remède. Une petite viande grillée sur le grill. Et un peu de vin chaud.
Vous pensez que ce goût de l'effort, nous ne l'avons plus et que nous nous sommes un peu perdus à cause
oui,
du progrès?
Je pense, oui. Je pense.
Ce sont les valeurs qui sont perdues aussi. L'homme s'est transformé.
L'homme s'est transformé, oui. Il n'a plus ce goût de l'effort. Faire l'effort, par exemple, il se considère un petit peu comme brimé par l'effort.
Vous dites également la vie modeste. Alors, on pourrait penser que l'homme demande trop, exige trop, n'est jamais content.
Ben, c'est un peu ça, il n'est jamais content, parce que je trouve actuellement, par exemple, moi qui ai connu, qui ai enfourché mon cheval, parfois à 1 mètre de neige, il fallait aller faire chercher le pain, à Moustier ou autre chose qui nous manquait, et le docteur en particulier, par exemple, quand mon père ou ma mère étaient malades, il fallait aller chercher le docteur à pied, et à cheval, à dos de mulet, et le docteur voulait bien monter à cheval à partir demi-chemin, c'est-à-dire quand on avait dépassé les précipices. Mais au-dessus des précipices, il ne voulait pas monter. Alors, il se tenait à la queue du cheval, on le tirait. Alors, actuellement, par exemple, quand on est malade, ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive quelquefois, eh bien, le docteur peut monter en voiture. C'est un progrès que j'apprécie énormément.
Les grands espaces, vous les avez, ces grands espaces?
Ah, les grands espaces.
Vous êtes né à quelle hauteur?
Je suis né à 1000 mètres. Je suis né à 1000 mètres, les grands espaces.
C'est pas tellement haut, 1000 mètres, quand même.
C'est pas tellement haut, seulement nous dominons toute la plaine et nous dominons toute la Provence. Et en particulier du sommet que je décris, c'est-à-dire le titre que j'ai donné à mon
ouvrage, Clos du Roi.
Le Clos du Roi.
On domine la vie.
Vous dominez toute la Provence, c'est-à-dire vous voyez tous les massifs, vous voyez le Ventoux, le Luberon, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, la chaîne des Alpilles. Vous voyez, vous avez tout devant vous. Et derrière vous, vous avez les grands massifs des Alpes. Voilà.
C'est ce que vous appelez les grands espaces.
C'est ça, les grands espaces. C'est-à-dire que quand vous tournez, quand vous pirouettez sur vous-même, eh bien, devant vous, vous avez l'infini. Vous avez l'impression que vous avez la vie, quoi. Et vous imaginez encore un peu par derrière, vous pouvez voir l'Afrique, vous pouvez voir tout ce qu'il y a loin.
Vous auriez eu envie de la voir, l'Afrique?
Oui, j'ai eu envie de la voir, et d'ailleurs, je l'ai vue.
Donc, vous avez voyagé. Donc, ces grands espaces, vous les avez trouvés ailleurs.
Oui, j'ai franchi la Méditerranée en avion, en bateau, et j'ai vu l'Afrique.
Mais la liberté, vous la trouvez où? Vous la trouvez dans votre Provence
ou... Oui, la liberté, je la trouve dans le calme de ma haute Provence. Dans les Alpilles, avec mes abeilles et mes ruches, dans l'Estérel, les Maures, au bord du golfe de Saint-Tropez, dans toutes ces petites chaumières qui sont des bergeries abandonnées ou des cabanes de bergers. Je la trouve là.
Vous pensez que demain, les bergers auront encore leur place, ou ce sera un métier tout à fait oublié et une condition d'homme qui ne sera plus qu'un souvenir?
Je pense que tant que les gens aimeront les gigots et les côtelettes, il faudra qu'il y ait des bergers. Je pense que ce n'est pas demain qu'on fera des gigots synthétiques et des côtelettes synthétiques.
Heureusement. Hein.
Heureusement, oui. Alors, il faudra les bergers. Mais évidemment, il faudra modifier tout ça. Il faudra... Il y a une quantité d'idées là que nos gouvernants feraient bien de s'inspirer, parce qu'il faudra... Par exemple, nous avons des montagnes pastorales où les bergers ne veulent plus aller parce qu'il faut marcher 5 heures à dos d'âne pour porter le sel, porter le ravitaillement. Alors, il faudrait qu'il y ait une piste ou il faudrait qu'il y ait un hélicoptère qui les ravitaille.
Mais c'est la grande question aussi. Parfois, on accuse certaines régions d'être mutilées parce qu'on a construit des routes qui abîment la montagne. Mais il faut penser également à ceux qui y vivent et qui n'iront peut-être pas toute leur vie à pied et qui ne porteront pas le foin sur leurs épaules.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser. Il faut construire des routes où on en a besoin, quoi. Oui. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas construire des routes uniquement pour le touriste. Il faut construire des routes pour les gens qui vivent dans la montagne. Et puis l'été, le touriste les utilise. Mais il ne faut pas vouloir faire des autodromes sur les montagnes. Ce serait une erreur, quoi.
Marcel Cipion, où avez-vous bu votre premier bol d'air et de lumière, enfin,
ah ben, je l'ai
votre
bu à,
berceau?
Je l'ai bu à Vénasque.
À Vénasque. Vénasque, c'est à quel endroit? Le même endroit, là?
Vénasque, c'est le hameau de Vénasque, au-dessus de Moustier. 5 km au-dessus d'une voie romaine qui serpente en partant de Moustier. C'était la route de diligence qui reliait Marseille à l'Italie.
Et votre père était né là?
Mon père est né un petit peu plus haut. Il est né à Chauvet, au hameau des Subies.
Alors, à chaque génération, vous descendez un peu?
À chaque génération, oui, on descend un peu.
Mais est-ce que ça n'est pas justement le fait d'une civilisation que de quitter le haut des montagnes pour s'installer dans la plaine comme tout le monde?
C'est-à-dire, ce n'est pas peut-être le fait des montagnes, c'est peut-être un phénomène naturel, vous voyez. La montagne enrichit la plaine. Elle l'enrichit avec son lit par les rivières qui descendent le Limon. Par exemple, si vous allez en Croix, il y a un phénomène tout à fait typique, c'est que dans les prairies de Croix, vous trouvez la flore de Briançon. Et cette flore, c'est la Durance qui l'a charriée. Parce que les prés de Croix sont irrigués avec la Durance. La Durance prend sa source à Montgenèvre, pas de Briançon. Il y a donc une quantité de graines, de pollen, qui sont charriées par l'eau, qui vont fertiliser ces prairies. On trouve là exactement la même flore, ce qui est extraordinaire, de trouver une flore qui a une altitude qui est environ de quelques dizaines, quelques centaines de mètres, tout à peine, dans la Croix. Et la même flore qu'on trouve à Briançon, qui est à plus de 1000.
Mais que retenez-vous?
Alors, nous subissons le même phénomène, c'est-à-dire que nous descendons, les hommes descendent, les valeurs descendent, et des fois, malheureusement, elles se perdent.
Et vous pensez qu'elles s'habituent dans la descente et qu'elles s'installent quelque part et que c'en est fini de la richesse des premières enfances?
Oui, un petit peu, oui.
Mais vous retenez quand même beaucoup de cet enfant, si vous en parlez bien. Votre père, que faisait-il? Il était berger, lui?
Mon père était berger, cultivateur, berger. Il a passé toute sa vie à l'élevage. Actuellement, il ne fait plus rien puisqu'il a 86 ans. Enfin, il est encore content de voir sortir des moutons et surtout très content de voir que...
Son fils.
J'ai recommencé à mettre des moutons.
Alors, le père était berger, avait ses moutons. Le fils a été berger, puis est devenu berger d'abeilles. Voilà. Il a quelques moutons, mais pour se faire plaisir.
Ouais.
Et puis,
c'est ça.
Et puis, le petit-fils n'aura plus de moutons de tout. Et
les petits-fils n'ont
et
pas le feu sacré.
Petit-fils sortira de
les enfants, évidemment, n'ont pas le feu sacré pour le mouton. J'en ai un qui se destine à l'apiculture. Il sera peut-être berger d'abeilles, Raphaël. Je le souhaite. Ça me fait beaucoup plaisir, d'ailleurs. Parce que l'apiculture berger d'abeilles est un beau métier. C'est un métier qui, à mon point de vue, n'est peut-être pas plus beau que le métier de berger, mais qui laisse plus de loisirs, qui demande plus d'initiatives, qui permet aussi... Je dois d'ailleurs dire ceci, c'est que si je n'avais pas été berger d'abeilles, je n'aurais pas peut-être les possibilités que j'ai eues d'écrire, parce que je n'aurais pas pu voyager.
Les abeilles
m'ont permis de voyager, elles m'ont permis d'avoir des contacts avec de nombreuses personnes de tous les milieux. Parce que comme je vous dis, par exemple, quand nous partons de la Basse-Provence, où nous avons passé l'hiver avec nos abeilles, nous montons dans le Vercors, nous montons dans l'Oisin, nous montons chez ces paysans rudes qui n'ont pas déserté leurs montagnes. C'est ce que je décris dans mon livre, Retour aux sources. Et ça nous enrichisse. Et puis alors, au cours de ces pastorales, en vendant le miel, par exemple, je vends le miel à toutes sortes de personnes. J'ai des personnalités très importantes.
Mais vous êtes devenu un industriel, là?
Non, je ne suis pas un industriel. Je suis resté un petit apiculteur. Mais enfin, ça n'empêche pas que je fournis, par exemple, je fournis du miel à la famille Rothschild. Je fournis du miel, j'ai livré du miel conseiller de M. Mitterrand, M. Badinter, par exemple, qui est passé chez moi. Alors, ça m'a donné des contacts avec toutes sortes de gens, d'être berger d'abeilles. Si j'avais été berger de moutons, uniquement berger de moutons, je n'aurais pas eu ces contacts.
Enfin, lorsque vous aviez votre troupeau de moutons, vous pouviez reconnaître vos bêtes. Il est beaucoup plus difficile de reconnaître ces abeilles.
Non, c'est une affaire d'habitude, il n'est pas plus difficile. Oui, on reconnaît bien les moutons, il est bien évident que dans un troupeau de 200 moutons, si je vous emmenais maintenant dans mon petit élevage là-haut, où j'ai quand même pas loin de 100 agneaux, eh bien je les reconnais tous. Je reconnais les agneaux qui ont 30 jours, ceux qui en ont 35, ceux qui en ont 40, je reconnais les agneaux jumeaux, je reconnais les agneaux des bêtes qui ont un an, des primes à part, etc. Je connais tout ça. Mais dans les abeilles, on reconnaît aussi, et c'est un autre métier, c'est une question d'habitude. On reconnaît les jeunes abeilles des vieilles, on reconnaît la reine, on reconnaît les mâles, on reconnaît un essaim. C'est une habitude.
Où avez-vous appris tous ces mots qui composent votre livre, qui sont, je dirais, presque, même parfois des mots savants, des mots que l'on n'emploie pas tous les jours et que même les intellectuels connaissent mal?
Je ne pense pas que dans mon livre, il y ait des mots savants. Dans mon livre, je crois...
Non, mais ce sont des mots vrais, ce sont les mots de tous les jours.
Voilà, c'est ça.
Ce sont les mots les moins employés.
Ce sont les mots de tous les jours, voilà. Ce sont les mots de tous les jours.
Je les appelle savants parce qu'ils sont beaux.
Ah, peut-être, oui, mais ce sont les mots de tous les jours, les mots de chez nous.
Alors, vous vous appelez vraiment Scipion?
Je m'appelle Scipion, oui.
Et vous vous appelez Scipion de toutes origines?
Oui.
Alors Marcel, ça fait un peu...
M'appelle Scipion de père en fils.
Oui, Marcel, ça fait un peu anachronique. J'aurais vu un autre César Scipion, ça aurait été beaucoup mieux, parce qu'en plus, avec votre allure de Romain, ou Marcus Scipion, enfin d'ailleurs, on le dit dans la post-faste.
Ah oui, Nicole Serra Vénial, mon ami, oui, m'a dit que... On aurait mieux fait de m'appeler Marcus. Mais enfin, nous, vous savez, les cultivateurs, les bergers, on ne va pas chercher si loin, on ne cherche pas à époustouffer la foule. Hein. On nous appelle par le nom pour reconnaître, et puis c'est tout. Hein.
Mais
donc, je suis bien content de m'appeler Marcel, parce que, voyez-vous, j'ai un écrivain que j'admire beaucoup, c'est Marcel Pagnol, et j'ai beaucoup aimé ses livres. Et alors, je m'appelle Marcel aussi, ça me plaît beaucoup.
À quel moment avez-vous commencé à lire?
À lire?
Oui.
Eh bien,
à lire des livres comme ceux de Marcel Pagnol ou de Jean Giono. Ben,
j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé quand je gardais les moutons, c'est-à-dire à l'âge, dès que j'ai passé mon certificat d'études, parce qu'il n'y avait pas de radio portative à l'époque, et mes meilleurs compagnons, c'était les livres, ma chienne Finette, et c'est tout. C'est là que j'ai lu énormément. D'ailleurs, j'avais toujours deux musettes. J'avais une musette où il y avait le ravitaillement pour ma journée, puis une autre musette où j'avais deux ou trois livres.
Et qui vous apportait les livres?
Les livres, je vous l'ai dit, en général, c'était les gens qui faisaient les provisions au moutier, qui les puisaient à la bibliothèque du presbytère. Et puis, des fois, on en louait quelques-uns. Les acheter, on n'en achetait pas souvent parce qu'ils étaient chers, mais on en louait.
Vous vous rappelez vos premières lectures? Vous parlez de Pagnol et vous voudriez être le
pas
Pagnol.
Pas des Massalets, oui, mais je ne me rappelle pas tellement. Je ne me rappelle pas tellement de mes premières lectures. Pas tellement.
On vous a aidé à lire? On vous a dit, voilà, voici quels sont les livres?
Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Je n'aurais d'ailleurs pas toléré. Je ne tolère pas qu'on me dite ni mes livres, ni mes idées politiques, ni quoi que ce soit.
Vous pensez que c'est ce que l'on fait pour beaucoup en ce moment?
Et oui, je ne me laisse pas beaucoup influencer, voyez-vous. Et alors, je n'aurais pas toléré qu'on me dise, tu vas lire ceci parce que ça va te cultiver. Non, mais mon institutrice m'avait dit, tu vois, il faut lire beaucoup, tu es un garçon moyen, et il faut lire beaucoup, ça va te développer l'esprit. Et puis, à la lecture, je prends beaucoup de plaisir. Et je trouve d'ailleurs que c'est formidable. Je plains beaucoup les aveugles qui ne peuvent pas lire, parce que dans les coups durs, la lecture, c'est magnifique.
Marcel Scipion, vous êtes né dans cette ferme, vous y avez été élevé, vous avez passé votre certificat d'études et vous avez beaucoup lu, mais à un certain moment, vous n'avez pas regretté un tout petit peu de ne pas avoir continué, de ne pas être allé au collège ou au lycée, à l'université ensuite?
Oui, j'ai regretté à un certain moment, j'ai regretté parce que je pense, j'ai toujours été beaucoup attiré par tout ce qui est scientifique. Mes lectures préférées sont les livres scientifiques. La biologie en particulier m'intéresse énormément. Et j'ai regretté parce que je pense que j'aurais été peut-être à ma place. J'étais très fort en français à l'école et j'étais très fort en sciences. Et c'était les deux disciplines qui m'intéressaient. Le reste, ma foi, la géographie, l'histoire, ma foi, Napoléon, c'est des histoires qui me laissent un peu froid. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Mais la science et le français m'ont toujours beaucoup intéressé.
Il vous est donc arrivé de rêver d'une autre vie?
Parfois, oui. Parfois, mais je ne regrette pas la mienne, parce que j'ai mené une vie très libre. L'apiculture m'a permis de gagner ma vie honorablement. Je ne me suis pas enrichi, mais j'ai gagné ma vie honorablement. J'ai gagné ma vie avec... une certaine liberté dont certains métiers ne m'auraient peut-être pas donné cette liberté. J'ai pu avoir des contacts, comme je vous l'ai dit, avec une foule de gens. Si j'avais eu un métier peut-être scientifique, je n'aurais peut-être pas eu autant de contacts, sûrement.
Enfin, vous êtes né dans cette ferme où il n'y avait pas alors l'électricité, l'eau. Bon, aujourd'hui, tout cela est devenu nécessaire. Mais on pourrait revenir à ces temps-là? Non pas pour...
Eh bien, ce serait peut-être difficile. Ce serait difficile, mais sûrement pas impossible. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas impossible, puisque j'y suis revenu. Voyez-vous, il y a à peu près 6 mois, j'ai acheté des moutons, et je me suis réinstallé dans cette ferme.
Mais la même ?
Exactement la même.
Là où vous êtes né ?
Là où je suis né, la ferme de Venasque. Seulement, on l'avait quand même un peu modifiée. Premièrement, on a l'électricité, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Deuxièmement, j'ai capté une source à 300 mètres avec des tuyaux de plastique. Nous avons emmené l'eau dans les bergeries et à la ferme, ce qui est quand même agréable. C'est un tout petit confort. Nous n'avons pas encore de toilette. Enfin, j'ai une petite maison, mais c'est mon fils qui l'occupe, où il y a une salle de bain. Mais enfin, moi, je vis dans la ferme ancestrale, c'est-à-dire la ferme de Venas que je décris. Et il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain. Il faut encore se laver comme on se lavait autrefois.
Mais le hameau de Venasque, lui, il a changé ? Ou ce sont toujours la dizaine de fermes basses ?
Il a énormément changé. Je dirais même qu'il a été un peu colonisé par les Belges. Puisque mon voisin, c'est un Belge, qui ne vient jamais d'ailleurs, qui a acheté un domaine de 800 hectares.
800 ?
800 hectares, avec tout un hameau qui était le hameau du Père Rousse. J'en parle dans... Il a fait la chasse aux sangliers, là, j'en parle.
La chasse aux sangliers,
c'est le capitaine de l'équipe, oui.
Quelle aventure, la chasse aux sangliers, hein.
Ah, c'est une merveilleuse aventure, c'est une de mes plus belles aventures. La chasse aux sangliers, connaître ça à l'âge où je l'ai connu.
Vous avez quel âge ?
Fantastique. Oh, je pouvais avoir 10-11 ans, une dizaine, 11 ans. Pas quelque chose comme ça.
Oui, parce que l'aventure était totale, parce qu'un jour, on vient, puis on dit une dizaine de... ou 800 sangliers se promènent, et deux sont aussi gros que des ânes.
Ah oui, c'était formidable, ça, parce que vous savez, chez nous, on a toujours été chasseurs, un peu braconniers. Mon grand-père a toujours chassé sans permis, donc c'était un braconnier, mais enfin...
Vous êtes braconnier, vous aussi ?
Non, je l'ai été. Je ne le suis
de
plus.
De temps en temps.
Non, je ne le suis plus, mais je l'ai été.
Un sanglier par-ci par-là, quoi, non ?
Non, actuellement, je ne le suis plus, je ne braconne plus. Mais je l'ai été à 16 ans, je partais dans la neige et je courais derrière les lièvres et derrière les sangliers. Et j'avais une jambe de fer et, ma foi, j'en ai jamais tué d'ailleurs, des sangliers derrière la neige, mais je me suis esquinté derrière sans jamais en tuer des lièvres, j'en ai tué quelques-uns. Mais actuellement, le braconnage ne me dit plus rien. Mais je braconnais, par exemple, quand je décris dans mon livre, je décris la chasse aux lièvres dans les igloos de neige.
Mais pour en revenir aux sangliers, c'était quand même une chance pour vous, cette expédition, parce que vous aviez 11 ans, il fallait presque l'autorisation de l'instituteur, de l'institutrice, pour partir avec eux.
Ah oui, il me fallait une autorisation.
Parce que c'était dangereux, quand même.
Assez, ça pouvait être dangereux. Il y avait quelques années auparavant, nous avions le docteur du village qui était un passionné du sanglier, il s'était fait ouvrir une cuisse. Il avait glissé devant un sanglier, il s'était fait ouvrir une cuisse. Donc ça peut être dangereux. La chasse au sanglier est toujours dangereuse.
Vous envoyez encore des sangliers ?
Oui.
Dans ce pays où il y en a beaucoup.
Ah oui, nous faisons la chasse au sanglier. D'ailleurs, je suis le chef d'équipe de la meute dans le village. Nous sommes 25 collègues qui faisons la chasse au sanglier.
Par nécessité, presque.
Comment ?
Par nécessité.
Par plaisir. Et il nous est arrivé, voyez-vous, encore il y a 3 ans, c'était juste un peu avant mon accident, il nous est arrivé un curieux accident, un sanglier qui a roulé un collègue. Et ce collègue était roulé, il avait tiré ses 3 coups de fusil parce que le sanglier venait très fort chez lui, il avait bousculé, il a reculé, une racine lui a tapé dans les talons, il a basculé, et le sanglier seulement, c'était un sanglier de 30-35 kilos qui n'avait pas de grosse défense, et qui lui donnait, au lieu de lui donner des coups de défense, il donnait des coups de groin. Et nous entendions « au secours, je suis mort ». Alors le premier postier qui était à côté est allé vite porter secours, et il a vu ce collègue qui était roulé, mais il ne pouvait pas tirer le sanglier, et il aurait tué son camarade. Alors, pendant un petit moment, il a regardé le collègue qui était roulé par le sanglier. Et puis, il a eu une idée, il a fait un grand ouf, comme ça. Le sanglier, entendant ce bruit inaccoutumé, a fait un écart de derrière de 2 mètres. Il a épaulé et il a séché le sanglier sur place. Évidemment, le collègue s'est dressé, inutile de vous dire qu'il était blanc comme un linge. Mais il n'avait aucun mal. C'est vous dire que la chasse au sanglier peut être quand même dangereuse.
Mais Marcel Sipion, là, à l'instant, vous disiez que votre hameau de Venasque, enfin, votre berceau, puisque vous êtes né là, était devenu... un peu différent, puisque les maisons avaient été achetées, même les domaines, et vous disiez que c'était une colonisation belge totale, avec ces 800 hectares qui sont pris par un Belge. Ces gens qui ne viennent pas, ou qui viennent simplement de temps en temps l'été, se sont-ils quand même habitués à la vie de la région ? S'ils y participent à cette vie ? Non ? Même pas ?
Il y en a, il participe un tout petit peu. Mon voisin de droite ne participe pas tellement parce qu'on ne l'a pas vu. Il est venu quand j'ai fait le remembrement, nous avons eu des affaires à traiter ensemble. Alors là, il est venu et puis depuis, il ne s'en occupe plus. Le voisin de gauche est un fabricant de caravanes de Bruxelles, qui est assez sympathique, très sympathique même, et qui, pendant le mois de juillet, qu'il passe là, c'est agréable, il a planté des amandiers, il a planté des lavandes, il a planté des pins, il a bien arrangé la maison, de la bergerie, il a fait une salle de séjour, de l'écurie des bêtes, il a fait un salon, il n'a pas saccagé la ferme, il a gardé les petites fenêtres que nous avons en Provence pour éviter les mouches, pour avoir de l'ombre. Vous savez qu'en Provence, si on veut avoir des maisons fraîches, eh bien, il faut avoir des toutes petites ouvertures, il faut fermer la porte. Par exemple, moi, au début, quand je me suis marié avec une franc-comtoise. Et nous avons beaucoup d'amis franc-comtois qui passent à la maison.
Ce n'est pas une mésalliance, hein ?
Non, d'accord. Et beaucoup d'amis passent à la maison au mois de juillet, au mois d'août. Et ils voient les fenêtres qui sont closes, volets clos, et la porte fermée. Alors ils disent, ben, il n'y a personne, ils s'en vont. Alors des quantités de gens nous disent, mais on est passé un jour chez vous au mois de juillet, mais il n'y avait personne. Les volets étaient clos et la maison. On dit, quelle heure il était ? Ben, il était environ 2 heures. On dit, malheureux, mais c'est l'heure de la sieste, elle a tout est fermé pour qu'on n'ait pas le mouche et pour qu'on ait frais. Mais il fallait taper ou sonner. On vous aurait répondu, on y était ce jour-là. Ah, dis, on ne savait pas. Alors maintenant, les gens savent quand ils voient les maisons fermées.
Vous faites toujours la sieste, Marcel ?
Ah, on fait toujours la sieste.
Même à l'hiver ?
Ah non, l'hiver, on ne la fait pas.
Non.
Ah non, l'hiver, on ne fait pas la sieste, mais l'été, c'est obligatoire. Nous commençons des fois les journées à 4 heures du matin. D'ailleurs, là, je voudrais en profiter pour rétablir une vérité. En Provence, on dit que les Provençaux, c'est des feignants, parce que tous ces Parisiens qui descendent, ou d'ailleurs, les gens du Nord, ou les gens de Bruxelles, ou d'ailleurs, ils disent, mais tiens, mais en Provence, ils se la coulent douce. Hein. À partir de 10 heures, ils sont sous les platanes, ils jouent au boule, ils boivent le pastis. À 4 heures, ils y sont encore. Seulement, ce qu'ils oublient, c'est qu'à 3h30 du matin, il y a des tracteurs. À l'époque, c'était les chevaux qui partaient. Maintenant, ce sont des tracteurs qui pétaradent et qui partent aux champs. Alors, les cultivateurs ont commencé à travailler à 3h30. Hein, faites le compte.
Quand vous quittez
à 10h, ben, vous avez déjà fait une bonne petite journée. Quand vous commencez à 4h et que vous avez terminé à 10h30 du soir, je crois que si vous faites les heures,
c'est bien,
vous avez dépassé les 8h, largement.
Mais Marcel Cibion, vous n'aimez pas tellement les Parisiens.
Si j'aime les
Parisiens. Vous ne vous trouvez pas bien ici à Paris.
J'aime les Parisiens, mais je ne me trouve pas bien à Paris. Non, je ne me trouve pas bien à Paris. Quoique d'ailleurs, j'ai été très très bien reçu par la maison Seguers, qui est
une équipe
formidable. Ça, c'est une équipe formidable. Mais je ne me trouve pas bien parce que c'est une vie un peu de fou. Les gens, ils courent, ils sont toujours pressés. Et nous, on en rythme beaucoup plus lent. Remarquez que si on faisait le compte, on fait peut-être autant de travail qu'eux.
On va plus vite parce qu'on va lentement. Hein.
Voilà. Il y a un proverbe qui dit. Qui va piano, va lontano.
Mais les paysans de votre hameau de Vénasque, qui sont partis, puisqu'ils ont laissé leur place à des Belges ou à des Parisiens, ils ont envie de revenir dans leur village, dans leur maison. C'est cela l'important.
Ah, je pense que s'ils avaient la possibilité, ils reviendraient. Seulement, ils n'ont plus la possibilité parce qu'ils se sont enchaînés ailleurs. Il y en a qui sont devenus fonctionnaires, il y en a qui sont partis ailleurs.
Non, mais alors, la réponse, il faudrait savoir, ont-ils envie de revenir là, à leur maison ?
Pour dire la réponse des gens, c'est difficile. Mais je pense que oui. Mais je pense qu'ils ne pourraient plus vivre quand même la vie qu'ils vivaient. Par exemple, j'ai mes deux voisines, Marthe Rousse, Yvonne Rousse. C'était des filles qui avaient le même âge que moi. Je pense que si on leur demandait de vivre à Vénascle, une vit à Manosque, l'autre vit à Pimoisson, je pense que si on leur demandait de vivre sans eau, sans électricité, comme nous avons vécu, eh bien, elles auraient sûrement du mal. Vous savez, c'est difficile. Quand il faut toujours manger le pain noir avant le pain blanc. Si vous mangez le pain blanc avant le pain noir, c'est difficile d'y revenir. Ou alors, il faut avoir beaucoup de caractère, de volonté.
Et puis, Marcel, les choses vont quand même très vite. Vous êtes fils de paysan, vous êtes paysan, vous êtes berger, mais vous êtes devenu un berger quand même un peu inhabituel, un berger qui se fait plaisir. Et puis, déjà, on peut penser que vos enfants ne seront pas paysans. Alors, on peut s'inquiéter pour l'avenir, à moins qu'il y ait une renaissance totale et que l'on revienne aux sources. Et je crois que c'est nécessaire, il va falloir y penser. Mais d'une manière normale, hein.
Oui, on peut s'inquiéter par l'avenir, on peut s'inquiéter pour l'avenir parce que, voyez-vous, j'en profite ici de le dire, tous ces gens qui nous gouvernent n'ont pas bien pris conscience de ce drame, la montagne qui meurt. Or, nous avons la montagne qui meurt de toutes parts. J'étais stupéfait, il y a une vingtaine d'années, je transhumais mes ruches dans la vallée de l'Ubaï. J'étais stupéfait d'y retourner cette année et de voir que des hameaux entiers avaient disparu. Il n'y avait plus personne. Excepté les quelques estivants de Marseille ou d'ailleurs qui avaient acheté une ruine et qui l'avaient construite. Les paysans avaient disparu. Comment voulez-vous vivre avec 8 vaches ? C'est plus possible. Alors il faut qu'on aide la montagne. Et il ne faut pas qu'on l'aide avec des subventions, avec un système qui fait ressembler à une aumône. Nous sommes quand même plus fiers que ça. Oui, il faudrait qu'on l'aide il y a des idées. Et ces idées, on n'a qu'à nous les demander, à nous les montagnards, que ce soit la droite, que ce soit la gauche qui arrive aux élections, ils n'ont qu'à faire appel à nous. Nous avons des idées, les montagnards. Et nous leur dirons ce qu'il faut faire.
La première idée, d'abord, c'est de permettre aux montagnards de vivre là où ils sont.
C'est de permettre aux montagnards de vivre où ils sont, de vivre de la terre, de vivre... Il y aurait... La montagne peut devenir un immense réservoir où le peuple des villes peut venir puiser, refaire sa santé, avec des aliments naturels, des viandes naturelles que pourraient produire ces paysans, évidemment qui seraient peut-être un peu plus chères, mais qui auraient une valeur, et qui permettraient à tous ces hommes des villes un peu anémiés, un petit peu détraqués, assez souvent, par cette vie artificielle, n'est-ce pas, de se replonger dans ce bain, qui serait un véritable bain de jouvence. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas en faisant quelques stations de ski où viennent vivre quelques milliardaires pendant quelques mois qu'on peut faire revivre la montagne. On l'a fait revivre 2 mois, c'est vrai, mais après...
Vous en parlez avec vos enfants de tout cela?
Oui, nous en parlons quelquefois.
Comment réagissent-ils ils ont quel âge d'abord, vos enfants?
J'en ai un qui a 20 ans, Raphaël, et puis j'ai Pascal qui en a 22.
Alors que font-ils d'abord, tous les
deux? Eh bien, Pascal s'est remis à la ferme et cultive les lavandes. Il essaye de s'en sortir avec les lavandes. C'est assez dur pour le moment. Et puis Raphaël, eh bien, va me succéder. C'est-à-dire qu'il va prendre l'exploitation apicole. Tout au moins ce qui nous reste, parce que j'ai perdu beaucoup de ruches qui sont mortes, 3 ans que je n'ai pas exploité. Je n'ai pas mis la main. Et nous allons essayer de remonter quelque chose, quoi. On verra. On va essayer 3 ou 4 ans. Et puis ensuite, on verra si on ne nous aide pas. Par exemple, nous avons... Je voudrais que vous veniez actuellement pour aller chez moi à la ferme de Venasque et que vous montiez dans une voiture. Vous verriez. Nous roulons sur 13 km de piste. Il faut avoir les reins solides, hein, parce que ce n'est que trou et que bosse. Ce n'est pas goudronné. Nous avons des grimpettes qui montent. Il faut avoir envie de les grimper, il faut des chaînes. Eh bien, il faut un certain courage pour vivre là, évidemment. Mes fils ont beaucoup de mérite, avec les quelques jeunes, à rester là. Ils ont beaucoup de mérite.
Mais vous souhaitiez autre chose pour eux? Vous souhaitiez, par exemple, qu'ils continuent leurs études?
Non,
Vous ne les avez pas encouragés?
Je ne les ai pas tellement encouragés, parce que j'estime qu'il faudra quand même qu'il y ait des paysans. Mais j'aurais aimé qu'ils poursuivent leurs études pour devenir des paysans plus instruits. Plus instruits, car il y a quand même un drame chez nous. Le député, c'est un avocat. Le maire, ce n'est pas un agriculteur. Conseiller général, ce n'est pas un agriculteur. C'est un instituteur ou autre chose. Enfin, il n'y a pas vraiment de vrais ruraux qui prennent les postes de commande. Et ces postes de commande, eh bien, il faudrait que ce soit des agriculteurs qui les prennent. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on sauvera la montagne. Il faut, pour sauver quelque chose, il faut connaître.
Reconnaître une identité aussi.
Connaître une identité.
Parce que souvent, on vient d'ailleurs et de la ville pour mener le combat des paysans qui peuvent le mener tout seul.
Nous pouvons le mener tout seul.
On confond écologie et politique.
Nous pouvons le mener tout seul. Oui, je pense. Vous voyez... Je ne veux pas me vanter, mais pendant ma convalescence, j'ai lu tous ces livres des hommes politiques. J'ai lu les livres de Mitterrand, j'ai lu les livres de notre président de la République, j'ai lu le livre des marchés, j'ai lu en quantité, voyez-vous. Eh bien, voyez, moi j'ai écrit un livre aussi, évidemment, il ne vaut peut-être pas celui de Mitterrand, il ne vaut peut-être pas la démocratie française, il ne vaut peut-être pas le livre de marché.
Non, je vous dis,
mais c'est
un
autre chose, c'est un livre de paysans, voyez-vous. Alors nous pouvons faire des livres comme ils font eux, et pourquoi nous ne pourrions pas? Nous pourrions sûrement... restituer la montagne et l'aménager, ou tout au moins qu'ils viennent nous demander nos idées, mais ils ne les demandent pas.
Lorsque vous écrivez, et c'est le titre de votre ouvrage, Le Clos du Roi, bon, le clos, on le comprend, c'est votre terre, puis du roi, c'est parce que dans votre montagne, vous êtes le roi comme tout montagnard l'est en son domaine.
Ah non. Non, c'est pas ça, non. Pas tant d'ambition, je n'ai pas cette ambition.
Non. Vous savez, la chose, le roi de la montagne.
Oui, non, vous me connaissez mal. Le Clos du Roi, c'est le nom d'un sommet de la chaîne du Mont-Denier, c'est-à-dire la première chaîne de montagne qui nous sépare, qui fait écran entre le climat méditerranéen et le climat alpestre. C'est une montagne qui est orientée ouest-est, et tout à fait au sommet, il y a une combe, une immense combe, qu'on appelle le Clos du Roi. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je le dis dans mon livre. Je ne sais pas pourquoi on appelait ça le Clos du Roi. Ça s'appelle le Clos du Roi. Voilà pourquoi j'ai donné à mon ouvrage le titre de Clos du Roi. Mais quand on monte sur ce sommet, évidemment, on se sent quand même un peu un roi parce que, je vous dis, on a l'immensité devant soi. On se sent très léger parce qu'on est presque à 2000 mètres. On est dans un ciel qui est vraiment très, très pur. Voilà pourquoi j'ai appelé le Clos du Roi. Mais...
Vous avez l'espace.
On a l'espace.
Et
oui.
Dans cet espace, comme autrefois, vous avez encore le temps de rêver et d'inventer un autre univers?
Oh oui, oui, j'aime beaucoup rêver. Il m'arrive de rêver.
Mais vous rêvez à quoi? Ou de quoi? C'est votre secret.
Oui, c'est un peu mon secret. Oui.
En tout cas, vous faites, lorsqu'on est berger, c'est vrai que l'on fait, que l'on peut faire, en tout cas, l'apprentissage de la solitude. Enfin.
Oui, je pense que ce métier de berger enrichit beaucoup. Et cette solitude peut aider énormément, car on a une vie intérieure très dense. Ça vous enrichit d'une vie intérieure très dense. Et dans des coups durs, parce que des coups durs, j'en ai connu, je viens d'en connaître un, mais j'en avais connu avant. Eh bien, cette richesse intérieure est importante, elle permet de surmonter. Je vois mal le gars qui, dans une épreuve, n'a pas de vie intérieure. Parce que on est seul.
Un peu de réflexion.
Oui.
C'est le ralenti qui donne ça.
Dans le coup dur, on est seul, on est souvent seul. Dans les moments pénibles, évidemment, il y a les amis qui vous entourent, il y a la parenté, mais il n'en reste pas moins, quand ils sont partis, vous restez seul avec vos idées, avec vous-même, quoi. C'est un miroir qu'on regarde par l'intérieur. Il faut avoir une richesse intérieure. Et ça, le métier de berger, y contribue beaucoup. Et le métier d'apiculteur aussi, d'ailleurs, mais un peu moins. Un peu moins, parce que le métier d'apiculteur est un métier captivant. C'est un métier qui rappelle un peu le métier de chirurgien, le métier d'apiculteur. Il faut ouvrir une ruche, vous voyez, il faut faire un planning, d'abord. Ensuite, vous ouvrez la ruche, et il faut traiter ça en 5 minutes. Si vous avez loupé, tant pis pour vous. Si vous avez loupé, c'est des centaines de piqûres qui vont vous coller. C'est l'opération qui est loupée, c'est ça. Le métier de berger permet de rêver davantage.
Mais là-haut, Marcel Cyprion, il vous est arrivé parfois d'être désespéré?
Oui.
De dire « je m'en sortirai pas ».
Oui, si, oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé d'être désespéré, par exemple, pendant la guerre en 1939-14, je suis resté chef d'exploitation. Mon père a été mobilisé, on nous a réquisitionné les chevaux. J'avais tout un troupeau de moutons sur les bras. J'avais ma sœur qui était encore jeune, assez jeune, et nous sommes restés, moi et ma sœur. Moi, j'avais 16 ans, ma sœur en avait 14. J'étais chef d'exploitation, ma sœur faisait la cuisine, on a tâché de surmonter. On a eu la chance que mon père a été démobilisé 2 mois après. On a eu cette chance-là, mais j'étais assez désespéré à ce moment-là. J'étais aussi assez désespéré parce qu'il est passé un moment, j'ai dit, tu t'en sortiras jamais, tu t'en sortiras jamais, c'est trop dur, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, tu es un petit couillon, là, jamais tu pourras te marier.
Vous vous êtes marié?
Je me suis marié, oui.
Et vous avez écrit un livre, jamais vous n'auriez pu imaginer, même lorsque vous lisiez...
Ah non, ça, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais écrire un livre, je n'aurais pas pensé. C'est des amis qui m'ont dit, qui m'ont un peu poussé en me disant, mais tu racontes très bien, et je pense que tu peux aussi écrire.
Mais vous saviez que vous aviez un talent de conteur, là-bas, il y a de la neige en ce moment.
Le talent de conteur, je ne le savais pas. Le talent de conteur, c'est France Vernia, qui est productrice ici, je crois, dans votre maison, Radio France, qui est venue un jour me faire une interview sur l'apiculture sauvage, comme on faisait autant jadis. Et c'est là qu'elle m'a découvert, grâce à elle. Je lui ai raconté cette histoire qui a passé sur France Culture. Et puis elle est venue l'année d'après, sur France Inter, La vie sur les vies. J'ai raconté une quantité de petites histoires qui nous arrivaient toujours à cette ferme de Vénasque, parce qu'on s'imagine que c'est une ferme perdue. On s'imagine qu'il n'y a pas de spectacle. Mais dans la campagne, dans la nature, le spectacle est journalier. Il est même heure par heure. Il suffit de le regarder. Il suffit de regarder une fourmi. Il suffit de regarder un grillon. Il suffit de regarder un corbeau qui fait son nid. Il suffit de regarder une cigale qui sort de sa chrysalide le 24 juillet. Il suffit de regarder un essaim qui se forme, il suffit de regarder à ses pieds, il faut se mettre à plat ventre. À plat ventre, voilà. C'est peut-être un peu l'inconvénient dans les villes, quand vous allez voir un spectacle, vous carrez dans un fauteuil, il faut être en jaquette, des fois. Nous, on peut se mettre à plat ventre, torse nu, et on voit des beaux spectacles, à condition de les comprendre, de les voir. Le citadin, il faut initier le citadin à tout ça. Et là, je pense, justement, qu'il y aurait pour le paysan quelque chose à faire, c'est d'initier le... Tenez, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait rire. C'est quand j'avais mes moutons, un jour, passe un groupe de touristes. Je ne sais pas où ils étaient. Et puis, j'avais un bélier qui prenait une brebis. Qui la saillie, quoi. Prenait la brebis. Oh, tiens, regarde un peu. Tiens, il apprend pas derrière, qui dit comme ça.
Tu vois, ouais.
Il apprend en chevrette. Il apprend pas derrière. J'ai dit, mais comment voulez-vous qu'il apprenne?
C'est grave.
Hein? C'est grave. Les béliers prennent toujours. Eh ben voilà. On ne sait pas. On ne sait pas traire.
C'est-à-dire, c'est vrai, les paysans pourraient apprendre la vie.
Nous pourrions apprendre la vie, oui, nous pourrions être les professeurs de sciences naturelles, on peut dire.
Déjà raconter les saisons.
Raconter les saisons, oui.
Vous savez que dans les villes, on ne sait plus comment passent les saisons. D'ailleurs, vous le dites bien dans le Clos du Roi, vous parlez de l'été, vous parlez du printemps, de l'automne, de l'hiver. Le printemps, c'est tout de même quelque chose.
Ah, le printemps, c'est fantastique, quoi. Le printemps, pour nous, c'est fantastique. Ce réveil de la vie, c'est... Pour moi, les deux saisons que j'aime sont le printemps et l'automne. Je préfère l'automne parce qu'on a l'impression que la nature meurt. Mais comme on sait qu'au printemps, elle va se remettre, elle va revivre, eh bien, l'automne, c'est une période fantastique. Puis c'est aussi une période où, pour nous, les paysans, nous ne sommes pas riches, mais nous avons récolté, nous avons rentré nos récoltes qui nous permettent de faire la soudure avec justesse. Mais enfin, on arrive à la faire, tant bien que mal. Et c'est pour ça que j'aime l'automne. Mais le printemps, évidemment, c'est fantastique. Toutes ces fleurs qui arrivent, les abeilles qui sortent des ruches, les agneaux qui commencent à brouter derrière leur mère.
Et le coucou.
Le coucou qui arrive, la neige du coucou. Par exemple, le coucou arrive, il tombe encore une ou deux fois la neige. Chez nous, on dit c'est la neige du coucou, qu'on dit chez nous. Alors, quand c'est la neige du coucou, ben, on n'a pas trop de soucis à se faire. On sait que même il peut en tomber un mètre. On peut être au 15 avril, il peut tomber un mètre de neige. On sait que le lendemain, il n'y aura plus. Parce que le soleil est chaud et il y a le coucou. Ah, s'il n'y avait pas le coucou, on pourrait dire, avec la bombe atomique, tout ça, le monde est renversé. Peut-être il va en tomber encore 2 mètres après demain. Mais avec le coucou, on sait, les bêtes, c'est infaillible.
Donc,
moment que le coucou arrive, le printemps est là.
Donc, Marcel Cipion, vous en avez fait l'expérience. Tous ceux qui étudient dans les villes finissent par être beaucoup plus ignorants que ceux qui restent au contact de la nature. C'est-à-dire qu'on finit par très vite oublier l'essentiel.
Voilà. On oublie l'essentiel, oui. On oublie l'essentiel. Et ça, c'est quand même important. Il ne faudrait pas oublier l'essentiel.
Il est drôle quand même ce siècle, il est drôle cette civilisation. On veut tout savoir et on ne sait rien.
Oui, on croit tout savoir et en réalité, je crois qu'on ne sait
rien. Enfin, on veut tout savoir, parce que croire tout savoir...
Oui. Hein.
Oui. Puis vous êtes sourcier aussi. Avec votre pendule, vous allez un peu partout. Là, et...
Oui, je suis sourcier. Ça, c'est un berger qui m'avait appris à chercher les moutons dans le pied de la montagne. C'est d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, c'est le berger, c'est le légionnaire, le berger frivole du troupeau, comme je l'appelle, Caléri, qui avait parcouru tous les coins du globe, il était légionnaire, et qui faisait un peu de radiesthésie, parce qu'il avait vu là-bas, dans ces pays d'Orient, en Afrique du Nord, il avait vu des cas assez exceptionnels de gens qui cherchaient, des gens qui faisaient crever un palmier, des gens... Et moi, comme tout jeune de 16 ans de l'époque, j'étais sceptique et je me moquais de lui. Et là, nous taillions des bavettes interminables, et un jour, je me rappelle, ben, on avait taillé une bavette, il était presque nuit, je n'avais pas mon troupeau, il fallait que je le retrouve, j'avais bonne mine, moi, on me rentre à la ferme, on m'aurait dit, où est ton troupeau? Qu'est-ce que je lui aurais dit? Alors, on m'a dit, mais t'en fais pas, ton troupeau, attends, je vais te dire. Et il a sorti sa montre, et avec une montre, sa montre, il servait de pendule, il a pirouetté sur ses 4 pieds cardinaux, dans la montagne, et puis il m'a dit, t'es fait d'assoum là, t'es fait, il parlait français bâtard, vous savez, il m'a dit, t'es fait d'assoum là, il m'a dit, alors, je suis quand même allé, puis dans une combe, 3-4 km, en effet, mon troupeau était là, je l'ai ramassé, je l'ai mis, ça fait que je n'ai pas eu d'engalade de mon père, j'avais récampé le troupeau. Et alors ensuite, ça m'a un peu drainé sur ce phénomène assez extraordinaire, que la radiesthésie, c'est-à-dire la recherche des sources. Et depuis, ben, j'ai des amis qui... J'ai fait, par exemple, en Provence, j'ai rendu d'énormes services à des amis qui n'avaient pas les moyens de se payer un terrain viabilisé, qu'on appelle viabilisé, où il y a la route, où il y a l'eau. Eh bien, je leur ai dit, écoutez, achetez ce terrain, il n'y a pas d'eau, hein, il est très sec. Mais vous voyez, à 8 mètres, il y a une petite source. Alors, vous faites forêt et vous aurez de l'eau pour votre résidence secondaire, votre cabanon. Et j'ai fait comme ça un certain nombre de résidences secondaires où ils sont très contents de boire l'eau du puits, comme autant jadis.
Mais pour repérer comme ça la présence de l'eau, il faut avoir quand même un pouvoir qui vient d'ailleurs. Vous ne vous êtes jamais interrogé, vous pensez que cela est normal?
Je pense...
Un autre sens.
Je pense que c'est un sens que beaucoup de personnes ont. Peut-être 60% des personnes le possèdent, seulement ne l'ont pas développé. Il faut le développer. Et alors, c'est par la pratique qu'on arrive à le développer. J'ai collaboré avec des ingénieurs qui s'étaient passionnés, des ingénieurs en particulier qui avaient fait l'Afrique, là-bas, tous ces pays où il y a beaucoup de minerais. Et alors, ces gens-là avaient cherché aussi de l'eau, mais étaient passionnés par les trésors, les recherches de trésors. Et ils ont trouvé beaucoup des mines. On a trouvé des quantités de trucs, des mines. Je me rappelle, par exemple, l'ingénieur Vatrin, qui, un jour, a fait une prospection dans une région où les géologues disaient « C'est impossible, impossible qu'on trouve de l'eau, là, d'après la nature du relief, du terrain, c'est impossible !» Et lui, il s'est promené avec le pendule et il a trouvé une source hertzienne qui a jailli à plus de 3 mètres du sol quand on l'a foré. C'était pas impossible. Il fallait capter là. Ça paraissait impossible, ça ne l'était pas. Alors, c'est une science, évidemment, qui est méconnue, qui est décriée, qui l'est moins. Depuis que le professeur Rocard a fait son livre, Le signal du sorcier, elle est moins décriée. Vous connaissez cette expérience du professeur Rocard?
Non.
Il a fait monter dans un avion des sorciers. Il les a fait promener. Et chose extraordinaire, à 800 000 mètres d'altitude, on peut capter les sources. ses sourcils ne se sont pas trompés. Sur la carte, ils ont indiqué les points où dans le sous-sol il y avait l'eau. Ils ont pratiquement repéré tous les puits. Et on s'est aperçu, nous autres les sourciers, nous avons repris ça.
Vous dites nous autres les sourciers.
Oui, nous autres les sourciers. On a repris ça avec mes collègues du Vaucluse en particulier. Et alors je me suis aperçu d'une chose extraordinaire. J'avais travaillé dans mes débuts avec un vieux paysan qui cherchait les sources. Et il partait en courant. Et quand il tombait, il s'affalait. Et quand il s'affalait, il se redressait. D'un coup de talon, il faisait un trait. Il faisait encore un coup de talon. Et il disait au gars, là vous plantez la foreuse, vous faites le puits, il y a de l'eau. Il se foutait en l'air. Et en lisant le signal du sourcier de Rocard, je me suis aperçu que la question de vitesse joue énormément. Au plus vous allez vite, au plus vous avez une sensation brutale dans les bras et dans les jambes. Et à certains sourciers très sensibles, ça vous coupe les pattes et ça vous fout en l'air.
Enfin, vous êtes sourcier, vous êtes un peu sorcier aussi, non?
Ah non, pas sorcier, non. Sorcier, je ne suis pas sorcier. C'est le malheur, c'est qu'il y a des gens qui confondent sourcier
souvent,
et sorcier.
Hein, ouais. Oui, c'est tellement beau, sourcier.
Oui, c'est très beau, parce que, évidemment, faire jaillir de l'eau...
Décrypter les marques de la vie.
Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est Moïse qui, avec sa baguette, le premier, a été le sourcier. Et alors, on n'a rien inventé, vous voyez.
Maintenant, Marcel Sipion, maintenant que vous avez écrit ce premier ouvrage, Le Clos du Roi, vous le paysan, vous allez vous lancer dans la littérature, vous allez peut-être imaginer un roman, une histoire, puis vous êtes plein d'histoires.
Je ne sais pas si je vais écrire, je ne pense pas que je sois capable de faire un roman. Évidemment, si je racontais toutes les histoires que je connais encore, soit par exemple de la vie paysanne, je pourrais sûrement écrire un, peut-être deux livres. Si j'écrivais des histoires qui me sont arrivées avec les sourciers, comme vous dites, eh bien, je pourrais peut-être en écrire un. Si je vous écrivais les histoires que j'ai eues avec les gens que j'ai connus, qu'on appelle les gens qui font les sciences occultes, eh bien, ce serait peut-être un livre aussi original. Je ne sais pas. Peut-être que je m'y hasarderai, mais enfin, pour le moment, j'ai quand même du pain sur la planche. Il faut me rééduquer, moi. Ensuite, on verra.
Mais tout cela viendra très vite. Le corps, vous savez, a une résistance telle que l'accident que vous avez eu il y a 3 ans va être vite oublié. Remarquez, il y a déjà 3 ans.
Hein. Il y a déjà 3 ans.
Ce n'est pas tout à fait fini.
Il y a déjà 3 ans, ce n'est pas tout à fait fini. Et la grande roue, elle tourne quand même. Alors, si on avait 20 ans, évidemment, on a du temps devant soi. À mon âge, on en a beaucoup moins.
Marcel Sipion, vous pensez qu'il y a une vie quelque part ailleurs, lorsqu'on quitte cette terre?
J'en suis absolument persuadé. J'en ai toujours été persuadé. Et j'en suis encore plus persuadé depuis mon accident. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais enfin, dans mon accident, il s'est passé une chose bizarre, une chose qui m'a troublé. Dans un choc terrible comme ça, 140 à l'heure, je vous assure qu'on a les boyaux qui... On a l'impression qu'ils vous tournent dans la cervelle et puis on a l'impression que la cervelle, elle vous tourne dans les talons. Et avec des impressions où le cœur continue, s'arrête, continue, on se demande. On croit qu'on va passer. Et là, j'ai bien cru le moment que je passais. Et à ce moment-là, il m'a semblé... J'étais loin de ma famille, je crevais comme ça sur une route en pleine nuit. Dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est triste, crever loin de sa famille. Crever avec sa famille, c'est peut-être triste, mais crever tout seul, c'est triste aussi. Et alors, évidemment, j'ai fait une petite prière. Et dans cette prière, j'avais une voix, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs, une voix intérieure, quelque chose de très fort, qui me disait, ben, ma foi, tu n'as pas perdu ton temps dans la vie, mais il y a une chose que tu as loupée, tu aurais dû, tu n'as pas... T'aurais dû écrire, t'aurais pu écrire, tu ne l'as pas fait. Et c'était comme un reproche, c'était quelque chose qui venait de loin, qui venait de très loin. Et pendant quelques secondes, j'étais honteux, en effet, de m'être laissé prendre cette passion des abeilles, à toutes ces passions que j'ai eues, la chasse des abeilles, qui ne m'avait pas permis d'écrire, c'est vrai. J'ai dit, et alors j'ai fait comme un vœu, j'ai dit, si je m'en sors, je ferai quelque chose.
Vous l'avez fait?
Et je l'ai fait, oui.
En réponse à cet appel.
Je l'ai fait en réponse à cet appel et presque poussé par une autre force mystérieuse qui est sûrement une force d'au-delà. Et je crois qu'ils sont malheureux. Moi, je suis catholique. Je suis anticlérical. Je dois dire, je suis anticlérical, mais je suis catholique et j'ai la foi. Et je pense qu'il y a une autre vie. Et je pense que beaucoup trop de gens se présente devant la mort, c'est-à-dire devant ce moment où le bilan, et ils ont un passif extrêmement important, ils n'ont pas d'actif. Quand je dis qu'ils n'ont pas d'actif, je veux dire ces gens qui ont toujours vécu en se regardant le nombril, sans jamais s'occuper des autres autour de soi, sans jamais voir les gens qui ont froid, et les gens qui ont faim, les gens qui sont malheureux, et qu'il faut que ce soit ces gens malheureux qui tendent la main. Tendre la main, c'est dur. Alors, ces gens-là, évidemment, au moment de la mort, doivent avoir un mauvais passage, un très mauvais passage, même s'ils sont très riches, s'ils ont vécu de la vie à outrance, comme tous les gens riches, n'est-ce pas? Ils doivent avoir des très, très mauvais passages. Dans la vie, on dit qu'il faut vivre, il faut bien vivre. Et moi, je crois que pour bien vivre, vous voyez, il faut penser aux autres, et ça prépare la mort. Parce que moi, je n'ai pas peur de la mort. Là, je n'avais absolument pas peur de la mort. Je n'ai pas peur aujourd'hui de la mort. Ce que j'avais peur, ce que j'ai peur, c'est de rester estropié, de rester cet handicapé, où les gens vous marchent sur le ventre, vous écrasent, ne voient pas que vous avez une difficulté à porter une valise, ne voient pas que vous avez une difficulté à marcher, ne voient pas que vous avez difficulté à manger. On vient vous enlever les assiettes comme tout le monde.
Parce indifférence et égoïsme.
Indifférence et égoïsme.
Et intolérance.
Et intolérance. C'est une chose pénible, trop de gens. Alors, dans la vie, il faut en profiter de la vie, il faut vivre, il faut s'accorder des bons moments, mais il faut aussi en accorder aux autres, dans la mesure de ses moyens. Et au plus on est riche, au plus on devrait en accorder. Malheureusement, moi je connais des gens extrêmement riches, j'ai fréquenté des gens extrêmement riches, j'ai toujours été frappé par leur égoïsme. Ils ne voient que leurs parents, que leur famille, que les leurs. C'est très rare de voir de la générosité parmi ces gens. Par contre, j'ai fréquenté des gens très pauvres, et, par exemple les gens qui nous reçoivent dans les montagnes. Eh bien, ces gens-là, s'ils ont un morceau de pain, ils le partagent. Ils ont plus que deux tasses de café, eh bien, ils la partagent. Ils la partagent, et ça, c'est formidable.
Chez eux, il y a, parce qu'ils sont pauvres, il y a la place du pauvre.
Il y a la place du pauvre, voilà, vous l'avez dit, il y a la place du pauvre. Alors que chez le riche, il n'y a pas la place du pauvre. Ou alors, si on fait la place du pauvre, on l'a fait, et quelquefois, ça m'est arrivé, je l'ai ressenti, où on fait la place, mais on est gêné, on ne peut pas avaler ce qu'ils vous donnent parce que ça vous étrangle, on sent que c'est une aumône qu'ils vous font. Ce n'est pas spontané, c'est un peu artificiel, c'est pour se donner bonne conscience. Ça, c'est pénible.
Marcel Cipion, dans le Clos du Roi, dans ce témoignage, j'ai cru remarquer quand même une absence. Et vous le dites, vous avez perdu votre mère, vous étiez jeune, elle avait 27 ans. Et sans doute, cette mort a-t-elle eu de l'importance dans votre vie? Vous êtes resté, vous aviez quel âge? 6 ans.
Ah oui, elle a eu énormément d'importance. Elle a eu énormément d'importance. Elle marque beaucoup. Elle marque énormément. Par exemple, je vais vous dire, j'ai été très très malheureux quand j'ai fait ma première communion. Bon, j'ai été très malheureux. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, vous allez me dire que c'est de la fierté, mais enfin, on peut en avoir, je pense. À l'âge de, j'ai dû faire ma communion, j'avais dans les 8 ou 9 ans par là. On peut être quand même un peu fier. Et bon, j'avais que mon père qui était en Provence, qui gardait ce troupeau de moutons là, qu'on avait descendu, et qui un jour m'avait pris par la main et m'a dit, ben, on va t'acheter ton costume de communiant. De communiant. À l'époque, il fallait, pour aller faire la communion, il fallait être sapé, quoi. Il fallait avoir un costume. Alors, il va m'acheter un costume, mais il y en avait qui coûtaient horriblement cher. Il y avait les pantalons longs à l'époque et les pantalons courts. Évidemment, c'est commencé à être la mode aux pantalons longs. Alors, tous les communiants avaient acheté, tout au moins ceux de mon village, avaient acheté des pantalons courts. Seulement, sachant qu'il y en avait deux ou trois des plus riches du village qui avaient des pantalons longs, les mamans s'étaient empressées de retourner chez le marchand, leur dire, écoutez, il y a le petit blanc qui a des pantalons longs, alors moi, il faudrait me les changer, parce que, alors le marchand avait changé, mais moi, mon père m'avait acheté ces pantalons courts, et après, il est allé à son troupeau, il avait le malheureux bien assez à faire, pour le troupeau, c'est ce qui nous gagnait le pain, et il ne pensait pas à ses pantalons. Et moi, je me suis trouvé tout seul, communiant, avec des pantalons courts dans l'église. C'est un des jours les plus malheureux de ma vie. Parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais l'impression...
Vous n'étiez pas comme les autres.
D'être pas comme les autres. Oui. Et évidemment, là, si j'avais eu ma mère, je suis sûr qu'elle aurait pensé à cette chose-là. Et les autres copains, mes copains avaient des pantalons parce qu'ils avaient leur mère et que leur mère avait pensé. Alors là, j'ai évidemment, c'est des moments... J'en ai eu d'autres. Enfin, ça, c'est un qui m'a marqué assez pénible.
Enfin, vous aurez eu quand même la sensation, et c'est une vérité, d'avoir longtemps dominé... Et la plaine et la vie, vous aurez su faire confiance à ceux qui ont une forme de vérité. Je pense aux bergers, je pense à tous ceux qui connaissent les lois de la nature. Et en effet, les bergers, les braconniers, ils ont quand même à reconnaître le enchanté votre enfance. Et lorsque je vous disais tout à l'heure, vous devez être un peu braconnier, même exprès, pour être tout à fait libre.
Oui, hein? D'accord, oui, on éprouve.
C'est
oui,
ça l'émerveillement.
Oui, mais bien sûr, on éprouve. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, vous voyez, Je lisais dans le train en montant toutes ces histoires de brigandage, de jeunes qui tuent, qui d'ailleurs vous venez d'en lire là tout à l'heure à votre émission, votre collègue là. Eh bien, je pense que peut-être il y aurait là quelque chose à faire. À cette jeunesse, si on donnait cette notion de braconnage, n'est-ce pas ? Je pense qu'il vaut encore mieux tuer un lièvre ou un sanglier en braconnage que de tuer un père de famille ou une jeune fille, ou etc. Et c'est peut-être parce qu'on ne donne pas à ces jeunes quelque chose pour se défouler. Moi, je me défoulais. Les grandes joies de notre vie à cette campagne de Venasque, eh bien, c'était quand j'avais gouverné le troupeau que j'avais aidé mon père, c'était de partir dans la campagne, dans 1 mètre de neige, et de braconner derrière les lièvres. Là, je trompais le gendarme, premièrement, puis j'étais très fier quand je revenais, parce que les gendarmes ne m'avaient pas pincé, premièrement. Ils ont failli plusieurs fois. Enfin, je sais toujours déjouer. Puis je ramenais un lièvre. Ça fait une belle aventure.
Vous voyez, on tue souvent avec les mots, mais on ne punit jamais. Mais en revanche, lorsqu'on braconne, hein, c'est fou ce qu'on peut ennuyer les pauvres qui braconnent.
Comment
on ennuie beaucoup ceux qui braconnent.
Ah ben évidemment que si on m'avait, oui, là si on m'avait chopé le jour où je venais de cette histoire, alors on m'aurait sûrement mis en cabane.
Vous êtes libre, Marcel, dans la vie maintenant, oui.
Oui, je suis très libre, je suis très libre.
Enfin, on pourrait continuer longtemps, mais il est 18h et je voudrais rappeler le titre de votre livre, Le Clos du Roi, qui paraît chez Pierre Seghers, c'est qui est vraiment un beau champ de la nature.
Vous permettez que je dise bonjour à tous les Provençaux,
je vous en prie.
À ma femme, à mes enfants.
Aux abeilles, hein.
Aux abeilles et puis à tous les bergers qui en Provence m'écoutent, je leur dis un grand bonjour et à bientôt.
Ben, je leur dis aussi à bientôt, j'irai vous voir là-bas.
Ah, je pense bien que vous allez me voir.
Merci Marcel Cipion.